Bon début de semaine, tout le monde. Karim est de retour, du budget. Moins de services, plus de dépenses. C'est pas mal ça qu'on s'en va. Fait que Karim nous fait un petit retour, en fait, de ce qu'il a vécu dans la dernière semaine. Il y a eu beaucoup de choses. Le budget en tant que tel, le huis clos, le 11 milliards de déficit, même une conférence de presse sur les trans que beaucoup de monde ont fait un gros WTF. Et ça, on se demande c'était pourquoi. Mais il y avait une stratégie derrière et ça a fonctionné. Fait que Karim nous en parle ce matin dans En toute liberté. Salut Karim.
Salut Joey.
Ouais, c'est ton 36 encore aujourd'hui. Fait que t'es sérieux, on parle de budget, on parle de chiffres, on est en retour de finances. Écoute, je te laisse aller parce que...
Ben écoute, moi je déteste les vestons et ces genres d'habillements-là, mais c'est parce que ça fait à peu près une semaine là, que je suis obligé d'en porter. Donc, ça m'a ça m'a imprégné, puis j'ai de la misère à en sortir, disons.
Tu préfères ton sarrau d'urgentologue pas mal plus.
Ah oui, ça c'est clair, je suis plus dans ma zone de confort avec le scrub d'urgentologue qu'avec le veston de politicien. Mais quand même, je m'adapte tranquillement, sans être vraiment bon. Tu sais, moi, je le dis toujours, hein, je suis un peu comme un caquiste. Je suis bon dans rien, moyen dans tout.
Ah, dis pas ça, tabarouette. Le monde va capoter. On pourrait peut-être trouver un genre de juste milieu, tu sais, trouver un genre de trench coat là, tu sais, qui réunit les deux univers ensemble, je sais pas, là, tu sais, un genre de un peu comme les genres de manteau de cuir qu'il y avait dans Matrice un peu, mais genre en moins glauque un peu, là.
Non, mais j'en ai un manteau de cuir, un bel staff en passant. Oh. Je vais le mettre à un moment donné. Donne-moi pas des idées. Hey. Mais faut que. Non, mais c'est parce que je l'avais acheté, ce manteau, ce bel staff-là. Il est vraiment beau. Mais je l'avais acheté il y a 15 ans. Puis j'ai pris quand même un peu de poids depuis ce temps-là. Mais là, je recommence les triathlons. Ça fait que d'ici probablement 3 mois, je vais perdre 25 livres. Donc, je vais pouvoir rentrer dans mon ancien bel staff d'il y a 15 ans.
Hey, on fera un épisode spécial avec des lunettes fumées noires.
On va le faire.
En mode matrice.
Et là, j'étais vraiment de mauvaise humeur avec ce budget-là. Mais là, de parler à mon bon ami Joey dimanche soir, je veux dire, là, ça me rend de bonne humeur quand même. pour le lundi matin. Écoute, Joey, ben encore merci de me donner la possibilité de parler de tout ça. Okay. Je vais débuter avec... on est allé au budget. On était... puis un grand merci en passant là, à Yann Sénéchal qui était avec nous. Mais malgré que Yann, c'est pas un militant conservateur, c'est même pas un membre du Parti conservateur, j'ai aucune idée pour qui il vote, honnêtement. Peut-être qu'il vote pour la CAQ, peut-être qu'il vote pour les libéraux, j'ai aucune idée. Mais
opposition contrôlée, hein? C'est le...
Mais il nous a vraiment aidé dans l'analyse, honnêtement. Puis c'est vraiment une belle tête politique et économique, Yann. Puis je l'apprécie beaucoup pour ça. On était en huis clos, on a passé à peu près 6 heures enfermés, moi, lui, Éric, puis... Cédric, l'attaché de presse d'Éric, est vraiment super bon. Et on analysait le budget, puis Yann nous a vraiment aidé là-dedans. Ça fait que je tiens à le remercier. Et il y a des gens qui nous ont critiqués férocement, dont des alliés naturels sur Choix Radio X, par rapport au fait qu'on est sorti sur les trans.
Okay? Le lendemain du budget.
Le lendemain du budget. Mais écoutez... on a fait la job là, pour le budget. Ça faisait, malheureusement, Adrien Pouliot, qui est vraiment notre gars d'économie au PCQ, tête super brillante d'économie. Là. Je vous dirais qu'il y a beaucoup de partis politiques qui aimeraient avoir un type comme Adrien Pouliot en économie, ça c'est clair. Malheureusement, il était à l'étranger, donc il n'était pas avec nous, mais ça faisait 3-4 semaines qu'Adrien nous fournissait des liens, qu'on étudiait sur la commission politique vraiment là, les propositions économiques. Et on est arrivé au budget. Yann nous a aidé dans l'analyse de ce livre-là. Le budget.
Le fameux budget. Y a-tu marqué « On est dans marde » dessus?
Non, il n'est pas écrit. Mais ce qui est le fun avec Yann, c'est que lui, son cerveau de mathématiques, ça y prend à peu près 15 minutes. Hey. Il lit les grandes lignes puis il est capable de comprendre à peu près tout. Donc ça, c'est quand même le fun d'avoir un gars comme ça qui peut...
Une méchante bébite qui est bon quand c'est le temps, Yann, sérieusement. Là.
Oh. Non, exactement, puis c'est pour ça que c'est le fun. Moi, de mon côté, j'ai étudié beaucoup la portion de budget santé, naturellement. Mais juste pour revenir au fait, pourquoi on est sorti sur les trans, ça faisait à peu près, ça faisait pas loin d'un an. Tu sais, je veux dire qu'on étudiait la littérature par rapport à ça, qu'on regardait les études comparatives. Puis, sur le budget, on est sorti. On a fait une conférence de presse, puis l'attaché de presse, Cédric, peut tout à fait le corroborer. Lui, il a écouté les conférences de tous les autres partis. C'était des conférences qui duraient entre 5 et 10 minutes, à peu près. La nôtre a duré à peu près 25 minutes. On avait plusieurs points. On a fait un communiqué par rapport à ça. Vraiment, la job a été faite. On est ressorti avec deux lignes des médias. Donc, c'est sûr que...
Vous n'êtes pas les seuls, mais supposément que, à part le ministre lui-même, les médias, il y avait beaucoup de monde pour trouver un peu de niveau de productivité, puis ils vous écoutaient juste pas, paraîtrait.
Ah non, je veux dire, on est allé, moi, j'étais à côté d'Éric, là. On parlait, les journalistes ne nous regardaient même pas, et ça parlait partout, puis on parlait juste dans le vide. Et il y a eu deux, trois lignes qui sont sorties. Donc, c'est sûr qu'il ne faut pas juger de par ce que vous voyez nécessairement dans les médias. Il y a un gros travail, ça faisait un mois qu'on travaillait là-dessus, 3-4 semaines, je dirais, sur le budget. Puis finalement, on est arrivé, puis et ça, ça les regarde, les médias. Est-ce qu'ils veulent nous couvrir par rapport au budget ou non? Cependant, une stratégie quand même assez intéressante. Il fallait sortir sur l'histoire, puis moi j'y tenais là, quand même à ce qu'on le fasse. Mais à quel moment, ça, c'est la com, c'est le chef qui décide. Mais regardez une chose. Le fait qu'on soit sorti sur les trans, sur les bloqueurs, ça nous a permis d'avoir des lignes sur le budget dans les médias.
Ben, c'est ça. Moi, personnellement, quand j'ai vu que vous faisiez une conférence de presse le lendemain du budget sur les trans, là, j'étais comme, what the fuck? Mais là, j'ai compris vite. Autant l'histoire de la stratégie de « on va s'en servir comme tremplin pour parler du budget », ça m'est venu par après, mais sur le coup, je me dis c'est purement au niveau de la logistique. Tu sais, Karim est à Québec, il est au budget, il y a une date limite pour remettre les mémoires sur l'affaire du conseil de sages qui par le gouvernement pour les affaires de trans. Mais c'est sûr qu'Éric va en profiter pour faire une conférence avec Karim sur ce sujet-là. Ben, je pensais qu'on avait parlé ça sur le sujet il y a quelques semaines dans Toute Liberté. Je me suis dit, c'est juste qu'Éric en a profité pour justement faire une conférence avec Karim vu qu'il était sur place, mais bien évidemment, quand tu y penses, c'est bien trop vrai parce que, écoute, pour ceux qui n'ont pas écouté la conférence de presse de Karim, ça dure une vraie 25-30 minutes. Sérieusement, c'est trop beau à voir. Là. Tu vois que Karim, il est préparé, il les a lu les études. Là. Il n'a pas juste lu les grandes lignes de CNN, puis les journalistes, je te dirais que ça n'a pas t'a fait longtemps. Là. Comme ils disent en bon français, il n'était pas de calibre. Fait que ça n'a pas été long que. Il n'y avait pas grand-chose à chigner. Fait qu'ils ont décidé de parler du budget le reste du temps parce qu'il y aurait manqué de questions. Fait que c'était pas mal ça. Puis c'était mission accomplie, ils en ont parlé.
C'est un petit peu ça. Et donc, à partir de ce moment-là, il faut toujours que vous preniez... C'est un peu ça, les stratégies politiques. C'est-à-dire, il faut être en mesure de déterminer à quel moment est-ce qu'on peut avoir un droit de parole. Et le droit de parole... Il ne s'impose pas. Ça, il faut vraiment que les gens le comprennent. Tu peux travailler pendant un an et demi sur un sujet et tu peux avoir 15 mots dans les médias. Ouais. Et pour monsieur, madame, tout le monde là, qui sont chez eux, ce qu'ils croient, ce qu'ils pensent, c'est ce qui est dans les médias traditionnels. C'est tout simplement comme ça. Et là, oui, c'est vrai qu'il y a des médias traditionnels. Puis là, on est sur un média traditionnel. Je vous respecte beaucoup, vous êtes mes bons amis. Mais ça n'a pour l'urne, là, pour l'électeur, ça n'a pas encore le reach d'un média traditionnel qui va chercher les électeurs. C'est la réalité.
Et c'est la vieille vision aussi que le... Tu sais, ça me fait penser un peu à Elvis Gradon III, là, tu sais, quand il parlait des médias, il dit « les médias font de la formation, pas de l'information ». Et dans les médias, la mentalité, c'est que si les médias n'en parlent pas, c'est que ça n'existe pas.
Fait ça, c'est si, ouais, feu Pierre Falardeau.
Feu Pierre Falardeau. Fait que tu sais, si les médias n'ont pas parlé, ça veut dire que justement, le PCQ n'a pas fait la job suffisante pour qu'il en parle. C'est tout sauf vrai. Tu sais, ce qu'on appelle percer le voile, ben c'est un peu ça, tu sais, c'est... Malheureusement, puis on l'a vu beaucoup, puis de manière chienne, durant la dernière élection provinciale, il y en avait des affaires, puis il y en avait des annonces. Puis à part pour poser des questions de genre, êtes-vous allez-vous accepter le résultat démocratique si Legault se fait réélire, là? Ou aimez-vous êtes-vous un ami de Donald Trump ou des conneries du genre, ou les Bill Gates, puis d'affaires de même? Ça,
Ben, c'est comme ça, qu'est-ce que vous voulez. Donc, pour graviter dans ce milieu-là, le politique, c'est très malléable, c'est très dynamique et c'est infiniment plus complexe que l'académique. Moi, je trouve ça beaucoup plus facile, puis je suis beaucoup plus dans ma zone de confort dans l'académique que dans le politique, où j'apprends à connaître un peu le politique. Et maintenant, allons vers ce fameux budget.
Okay? Oui.
Bon, je ne reprendrai pas la macroéconomie du budget. Yann l'a fait, Frank l'a fait aussi, tu l'as fait, vous l'avez fait sur votre chaîne. Il n'y a pas de bénéfice, là, parce que moi, je n'ai pas de valeur ajoutée sur la macroéconomie, même si ça m'intéresse. Parlons plutôt de la portion santé du budget. On est rendu à combien, là? On est rendu à 61,9 milliards. 61,9 milliards, ça nous situe dans le top 5 de la planète en termes PIB par habitant.
Dépenses en santé par habitant, c'est ça?
Dépenses en santé par rapport au PIB par habitant.
Ouais, ouais, ouais.
Okay? On est dans le top 5 de la planète. Maintenant, sur une échelle de rankings internationaux dans les SERP. Et là, il faut bien voir, OK? Est-ce que c'est grave d'avoir autour de 50 % de ton budget national qui est attribué à la santé? Est-ce que c'est grave que tu sois dans le top 5 de la planète, mettons que tu considères que le Québec est un pays, par rapport à l'investissement en santé par rapport à ton PIB par habitant? Ben, pas nécessairement.
Ça, c'est un choix. Comment tu t'en sers, hein? C'est comme tout le reste.
C'est un choix de société. C'est-à-dire, c'est un choix de société. Tu peux déterminer que tu mets plus ou moins dans la santé.
Excuse-moi, Karim, mais je déteste ce terme-là.
Mais moi, je le répète. mais c'est vrai, c'est comme ça. C'est-à-dire, est-ce que tu veux être une société? Une société pourrait clairement dire, nous, la santé, c'est moins important. Il y a d'autres secteurs qui sont plus importants et on met moins. Ça, c'est politique comme décision.
C'est pas un choix de société, c'est un choix de politicien. Parce que sérieusement, j'accepterais d'emblée disant que c'est un choix de société si on a été consulté à un moment donné là-dessus. Je comprends, on parle des années 60, de Jean Lesage, puis l'État-providence et tout ça, mais justement, sachant que présentement, je serais prêt à gager que la majorité de Québécois veulent beaucoup plus de privatisation au niveau de la santé, plus de libéralisation du marché. Mais les politiques font rien et disent « Ah, mais c'est un choix de société. » Non, 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 c'est un choix du modèle qui se défend. Oui. Le monde s'en crisse.
Oui, c'est ça. Non, je comprends. Je te parle pas du modèle, de la structure administrative, du modèle, de la structure de gestion. Je te parle de l'argent par rapport à ton PIB.
Okay?
C'est-à-dire la proportion de ta richesse nationale. Il y a des nations qui vont dire « La santé, c'est pas ce qui est le plus important pour nous. » Je veux dire, les infrastructures routières, c'est beaucoup plus important. Tu pourrais tout à fait dire ça. Ça, c'est un peu qu'est-ce que ton peuple décide en fonction des politiciens. Puis oui, naturellement, les politiciens peuvent manipuler ça, les médias, on s'entend. Mais le point, c'est qu'à l'heure actuelle, on est dans un État qui a décidé d'investir énormément en santé. Est-ce que c'est la volonté du peuple lui-même? On peut en discuter sur le plan philosophique. Est-ce que le peuple désirait avoir moins, investir moins en santé? Faut voir. Mais là, on est là, OK? On se situe dans le top 5 de la planète des nations qui investissent le plus en santé, mais on est en queue de peloton de l'OCDE par rapport aux listes d'attente. 61,9 milliards. Bon, c'est quoi, qu'est-ce qu'il y a dans ce fameux budget-là? Le budget. Là, je l'ouvre. Je tiens à mentionner un bon point quand même dans ce budget-là, qui est par rapport à la santé, le financement axé sur le patient. Maintenant, on se réveille.
Le fameux bout du projet Mammouth qu'on avait parlé, qu'on était d'accord, le 25 % qui était bon.
Exactement. Et c'est quoi les chiffres qui nous sortent? Et là, pour les trolls là, qui me détestent et qui s'amusent à rire de moi, bonjour. ça, c'est pas moi qui le dis. Hein. C'était une proposition phare du PCQ que j'avais écrite de ma propre main pour la campagne électorale d'octobre 2022. C'est pas moi qui le dis, hein. C'est la vénérable CAQ, la Coalition Avenir Québec. En radio-oncologie, le financement axé sur le patient a permis d'augmenter la productivité de 26 %. Mesuré, là. Pas moi qui le dis. Hein. Alors que le coût moyen des opérations a diminué de 7 % au même moment. C'est donc dire que ce modèle de financement procure un meilleur accès aux services de radio-oncologie et ça, à un coût unitaire plus faible.
Ben, regardons ça.
Bon.
On met des modèles en question, ça s'améliore le système.
Pour les trolls qui me ridiculisent, là, ouais, regardez, c'est pas moi qui le dis, là. C'est le ministre Girard, c'est la CAQ, OK? Et ça, c'est quand même un bon point dans ce budget-là, il faut le dire, parce qu'il y en a tellement des mauvais, ils ont tellement été mentionnés. Mais mentionnons que ça, au moins, le Québec, à l'heure actuelle, va de l'avant et graduellement va devenir légal à ses pairs de l'OCDE là-dessus, si on continue. Pour les trolls encore. Du côté de l'imagerie, le financement axé sur le patient a fait augmenter de 22 % le volume de procédures des unités techniques en imagerie par résonance magnétique, alors que le coût unitaire de ces procédures a diminué de 4 %. Mais ça veut dire quoi, cette affaire-là? C'est que le financement à l'activité patient, ça fait juste 2 ans et demi, 3 ans là, que j'ai dit ça. Lorsque vous changez le mode de financement, vous ne pouvez pas avoir un mode de financement d'un hôpital, d'un service qui est basé sur un budget fixe. Impossible. Vous n'avez aucune concurrence à ce moment-là et c'est certain que vous allez tomber dans un système de rationnement et dans un système de liste d'attente. Et même vos coûts, votre productivité, c'est-à-dire vos gains de productivité vont diminuer automatiquement par rapport à un mode de financement qui est axé sur l'activité patient. C'est-à-dire, plus vous voyez de patients vulnérables, vous avez des modèles de pondération, plus vous êtes payé. C'est juste la nature humaine elle-même. Bon, maintenant, c'est la CAQ qui le disent. Est-ce que, là, il y a des gens qui vont me dire, les trolls vont dire, ouais, mais là, la CAQ...
On s'en fout, les trolls, là, tu sais, ils trolleront, là.
non, mais c'est parce que le Québec c'est rendu rempli de trolls complètement. Oh. Et mais c'est parce que les journalistes reprennent ce que les trolls disent. C'est ça le problème en ce moment. C'est que les journalistes crédibles eux-mêmes reprennent les données des trolls. Ça devient assez embêtant. C'est juste des trolls, c'est des trolls. Mais le problème, c'est que les vrais journalistes reprennent les données des trolls. Maintenant, ça, c'est un très bon point. Donc, on encourage le gouvernement à continuer là-dessus. Et il y a des gains de productivité, il y a des diminutions de coûts totaux qui ont été démontrés par rapport à ça. Maintenant, le problème, un problème qu'on a ici, c'est que les fameux deux hôpitaux privés de Christian Dubé et Youri Chassin, je vois rien dans ce budget-là.
Sont-ils, Karim?
Je les vois pas. Mais faudrait qu'ils répondent à la question une fois pour toutes. Est-ce que ça va arriver ou non? C'est parce que moi, je pourrais accepter la réponse. On ne les a pas budgétés parce qu'il n'y aura pas un sou de l'État qui va être mis là-dedans et ça se doit absolument d'être des fonds privés. Moi, j'accepterais 100 % cette réponse-là. Mais le problème, on ne l'entend pas. Et Youri Chassin, il a fait un grand discours très éloquent à l'Assemblée nationale. Mais je n'ai pas entendu... Il me semble que si j'étais personnellement un député de l'Assemblée nationale au sein d'un gouvernement au pouvoir, j'aurais tendance à essayer de justifier un peu mon projet puis de dire, écoutez, il n'est pas budgété parce qu'il n'y aura pas un sou de l'État qui va être octroyé pour ces hôpitaux-là. Il faut que ce soit des investisseurs privés. Moi, je serais 100 % d'accord avec ça. Mais on s'entend tous. Est-ce que vraiment au Québec, tu vois, la CAQ vont mettre sur pied deux hôpitaux privés en libéralisant le réseau complètement sans qu'il y ait de fonds de l'État? Moi, le fait qu'on n'en parle pas dans...
Magali Picard est contre, donc ça n'arrivera pas. Président de la FTQ, en passant, pour ceux qui se demandent c'est qui.
C'est
puis Yori Chassin, sérieusement, si vous voulez vous tirer figurativement une balle en écoutant un discours d'ol en chambre pour parler du budget, là, on voit que le gars, il cherche ses mots. Là, vous savez qu'un budget, c'est 11 milliards, c'est 1, puis 2, puis 3, puis 4. Je peux dire, pouet-pouet, pataf-plouf, 5 fois avant d'arriver à... 100 millions de fois avant d'arriver à 11 milliards. Alors, c'était tellement des conneries, puis du filibustering, mais du filibustering poche. Tu sais, Gigi est capable de garder ça entertainante avec ses mots en Scrabble de 12 syllabes, mais lui, non, ça marche pas. C'est
quand même assez dommage parce que ce gars-là a tellement de potentiel. Moi, j'avais fait un débat avec lui parce que lui, il est député de Saint-Jérôme. Moi, je m'étais présenté dans Argenteuil, donc on avait fait un débat en santé dans les Laurentides. Puis je me rappelle, sérieusement, le gars est super brillant. Là. Lorsqu'il arrive dans un débat, il est solide, honnêtement. C'est un gars très intelligent. Et si le PM lui donne la possibilité de monter ces deux hôpitaux privés-là, j'ai aucun doute qu'il est capable de le faire. Il a les compétences, il a l'intelligence pour le faire, mais je pense que le problème vient d'en haut, ça vient du cabinet du premier ministre, honnêtement. Et lorsqu'on avait on a eu la chance de discuter avec le ministre Girard. Puis tu sais, puis je ne veux pas lui prêter d'intention, c'est mon interprétation personnelle, mais lorsqu'il est venu dans la salle où est-ce qu'on était enfermé, puis il a répondu à nos questions, Yann y avait posé quelques questions, Eric aussi.
Il y avait
Tu avais l'impression qu'il n'était pas fier de son budget. Puis tu as l'impression que ce gars-là est super compétent en réalité, mais qu'il se doit de faire un exercice comptable pour justifier les ordres qui viennent du cabinet du PM. Ça ressemble beaucoup à ça. Ce gars-là est trop compétent et trop brillant, à mon avis, là, pour faire un budget comme ça. C'est ce que je pense. Oui, vas-y.
Non, je voulais juste dire que je vais reprendre la théorie, l'analyse de Yann derrière ça. C'est que Éric Girard est un lightweight, malheureusement, malgré sa compétence, il n'a plus de poids dans le Conseil des ministres. Il se fait bardasser à v'là comme je te pousse par les. C'est ça, Legault, Fitzgibbon, puis Dubé de ce monde. Là. C'est le triumvirat qui gère le Québec, puis Koskinen, là, sans trop le nommer.
Je me pose la question sur le pouvoir de Christian Dubé. J'ai l'impression que ce gars-là est trop brillant puis trop compétent pour adhérer au modèle de santé qu'il propose avec avec la structure Santé Québec. J'ai l'impression que je comprends pas comment il peut adhérer à ça. Mais bon, écoute, on va continuer là-dessus, là.
Oui.
Par rapport au budget, ici, on a parlé des deux hôpitaux privés. Ils ne sont pas là. Pourquoi ce serait intéressant qu'il y ait deux hôpitaux privés, en réalité? Ça, c'est un début. C'est que le gros problème en santé, c'est la gouvernance centrale. OK? Lorsque tu regardes dans la fonction, là, puis quand tu regardes un peu l'organigramme en santé, et c'est un peu ce qui nous est reproché, c'est-à-dire refonder. Il y a des gens qui veulent que je reconstruis complètement l'organigramme de la santé. Mais êtes-vous malade?
Tu vas te suicider,
Karine. Non, mais pensez-vous vraiment que je vais passer? Je veux dire, je passerais, même si je pouvais vivre 3000 ans, ce serait impossible de refaire cet organigramme-là. Alors, arrêtez ça, là. Vous ne pouvez pas refaire un organigramme parce que si vous acceptez d'entrer dans le jeu de refaire l'organigramme de la santé, bien, vous acceptez que l'État, puis que vous acceptez la prémisse que l'État est compétent pour gérer tous les leviers d'un système au complet. Et moi, je n'accepte pas ça. Je pense que c'est complètement erroné comme vision. Votre organigramme de la santé, il va se reconstruire naturellement lorsque vous allez mettre de la concurrence dans un réseau.
Exactement.
Naturellement se remodeler.
S'adapter à la nouvelle réalité.
Exactement. Et là, vous n'avez pas besoin d'arriver là, avec la chaîne ça, puis dire, moi, je... Oui, c'est sûr que il y a quelque chose que, aussi, je suis d'accord là, dans ce que le ministre Girard dit, là, mais ce qu'ils vont vraiment le faire, c'est comme Philippe Couillard l'avait fait à l'époque avec Carlos Letard, c'est d'aller réviser chacun des programmes. Pourquoi ils ont été si bons? C'était pas de l'austérité, là, leur affaire. Arrêtez ça, là. Ça, c'est une lubie totale. De l'austérité, ce n'est pas de diminuer l'accroissement des dépenses. Là. C'est pas... Tu sais, vous avez une courbe, là, mathématiques 101, là, courbe des X, courbe des Y. Vous avez une courbe qui augmente, mais si vous diminuez... Si vous faites juste diminuer le degré d'augmentation de la courbe, là, au lieu d'être incliné à 45 degrés, être incliné à 25 degrés, elle augmente quand même. Il y a quand même une croissance.
Alors, puis regarde, je vous montre quelque chose rapidement. Je parle souvent de la méthode Ginette Renault. Ben justement, dites-moi, depuis Jean Lesage, dans la courbe que je vais vous présenter, si on a vécu de l'austérité. Non, non, c'est ça. C'est qu'il y a eu un peu de Lucien Bouchard ici et là. C'est le seul, c'est pour ça que je le respecte autant, c'est que c'est le seul qui a vraiment essayé de vouloir réduire la machine un petit peu. Le reste, ce n'est qu'on augmente et un peu plus haut, un peu plus loin, toujours plus, toujours grand. Et là, ouais, c'est ça.
Ouais, mais moi, j'étais sur les plaines d'Abraham quand Ginette Renault avait chanté cette chanson-là.
T'es sérieux?
Ben oui. Mais quelle voix magnifique. J'aime ça, moi, cette chanson.
Oui, non, ça rien à enlever à Ginette. C'est juste que je trouvais que l'expression fitait tellement bien. C'est tout le temps ça. Ce que j'appelle la méthode Ginette Renault, c'est qu'au Québec, c'est soit le statu quo ou on augmente. On ne baisse jamais. Parce que non, c'est être anti-québécois. C'est être contre les Québécois de vouloir couper dans la machine. Fait que c'est toujours un peu plus de budget, un peu plus de cash, un peu plus de monde. Non, le problème va se régler. Mais il serait que jamais, c'est un peu ça. Fait que c'est pour ça que la compétition est essentielle, comme tu l'as dit. Là.
Tout à fait. Non, j'aime bien là, ce que tu as fait. J'aime bien l'allusion que tu as fait. Ça me ramène là, à une époque où j'étais plus jeune, puis ça me rend un peu nostalgique. Mais bon, c'est correct. On continue là-dessus, on est sérieux.
Ceci était la capsule nostalgie dans toute liberté.
c'est bon. Ouais, exact. Écoute, donc, à partir de ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait au Québec? Est-ce que on. C'est parce que il y a des gens qui disent que je suis un admirateur total du privé, puis je veux juste. Non, je veux de la concurrence. Et à partir du moment, je ne voudrais pas d'un système qui est purement privé. C'est-à-dire, mettons que tu as un monopole, je ne voudrais pas d'un monopole privé, je pense que ce serait même encore pire. Mettons que tu as une genre de grosse compagnie, tu as un genre de Walmart de la santé qui a un monopole total du réseau de la santé. Je veux zéro de ça, il n'y a pas de concurrence, c'est un monopole. Mais la façon que je vois cet organigramme-là des CIS, des CIUS, du ministère de la Santé et des Services sociaux va s'amincir à partir du moment où est-ce que tu as juste deux, trois petits moves à faire, OK? C'est pas très compliqué, hein, de devenir un ministre de la Santé. Non, c'est pas très compliqué. Sérieusement, c'est... Être ingénieur, c'est beaucoup plus difficile. Être professeur de mathématiques, c'est beaucoup plus difficile tant qu'à moi. Tu as besoin de relever l'interdiction de la pratique mixte. C'est-à-dire que tu peux aller travailler d'un côté et de l'autre. Que ce soit pour les médecins, pour les infirmières, pour les préposés, pour n'importe quoi. Okay? En ce moment, c'est restreint pour les médecins, mais tu sais, donc on embarque tout le monde. Tu relèves cette interdiction-là, tu crées de la concurrence. Tu relèves l'interdiction d'hospitaliser plus que 24 heures dans des centres privés, dans des centres médicaux spécialisés. Tu relèves ça. Tu relèves également le nombre de lits maximum qu'un hôpital privé, qu'une institution privée peut avoir. Tu relèves ça. Tu libéralises le réseau à ce moment-là. Cependant, c'est vrai que lorsque tu donnes cette possibilité-là, l'État a quand même son rôle à jouer sur la qualité de l'acte. Tu ne peux pas laisser le privé faire n'importe quoi en termes de qualité de l'acte. Tu as besoin des ordres professionnels, ça c'est super important pour la qualité de l'acte, et tu as besoin également que l'État soit là et mesure ton niveau de performance, et pas seulement ton niveau de performance, mais la satisfaction des patients. Tu comprends? La satisfaction des patients et la qualité de l'acte mesurable. À défaut de quoi, tu vas avoir des pénalités. Tu comprends? Donc, tu libéralises un réseau, mais libéraliser ne veut pas dire un total, une totale anarchie. Non, c'est pas ça. Moi, je ne suis pas un anarcho-capitaliste, là. C'est pas ça. Je suis zéro ça, puis je ne veux pas être ça, puis je ne serai jamais ça dans ma vie.
Ça serait le commémorateur de l'année, ça, Karim.
que je m'affirme. Non, c'est pas ça du tout. Moi, je l'ai toujours dit, je suis un libéral classique d'entrée de gamme. T'sais. Mais c'est comme, par exemple, je ne sais pas, moi... Je ferai pas de parallèle, là, parce que je vais
va te mettre dans le trouble.
Non, je vais me mettre dans le trouble, là. Quand je fais des comparaisons, je me mets dans le trouble. Donc, c'est ça qu'on voudrait. Maintenant, il y a un autre point dans le budget ici, puis je le sors. Regardez. Assurer le maintien de la qualité des soins et des services aux aînés. Super important de s'intéresser à cette question-là. Pourquoi? Parce que... un pourcentage très significatif de notre population va devenir des aînés, OK? Et on devient des aînés plus rapidement que ce qu'on pense. On est une pyramide inversée. Il y a un vieillissement de la population qui est très important. 581 millions de dollars pour bonifier les services de soutien à domicile. D'accord. 253,5 millions de dollars pour soutenir le déploiement des maisons des aînés et des maisons alternatives.
Les maisons à 1 million la porte, là. Ouais.
C'est ça le gros problème, Joey. C'est-à-dire, et c'est pour ça, tu sais, il y a un article qui est sorti du Devoir qui dit le porte-parole en santé du PCQ rêve de soins dentaires gratuits. En réalité, lisez l'article, s'il vous plaît, c'est beaucoup plus nuancé que ça. C'est qu'on me pose la question. Moi, je suis un fan, en réalité. Disons qu'on a un État tellement riche, OK? On exploite le pétrole, on exploite les ressources naturelles, on exploite tout ça. Et on a un fonds souverain comme la Norvège de 850 milliards de dollars. C'est-à-dire juste l'intérêt sur notre fonds souverain, c'est à peu près notre budget annuel au Québec pour la gestion de l'État. Je veux des maisons aux aînés à 1 million la porte, pas de problème. Je veux que les plombages soient remboursés. Je veux des soins 100% remboursés. Aucun problème avec ça. Mais c'est la capacité de payer de l'État. On n'a pas ça. C'est-à-dire, on ne veut pas exploiter nos ressources naturelles. On ne veut pas avoir un État performant. On ne veut pas créer de la richesse. Mais en même temps, on veut des plombages gratuits.
Mais c'est ça. On veut faire des omelettes, mais on ne veut pas casser des œufs.
On veut des maisons à 1 million de la porte qui, dans 10 ans, vont probablement être à 1,8 million de la porte. Très problématique. Et là où je reviens, par contre, l'investissement pour les soins à domicile, c'est là qu'il faut aller. Pourquoi c'est là qu'il faut aller? Okay? Bien démontré dans la littérature, lorsque un lit de CHSLD, un lit en institution, non seulement il diminue l'espérance de vie de la personne, en plus, il diminue sa capacité d'autonomie, mais en plus, il coûte de autour de 20 à 30 % plus cher qu'un lit en soins à domicile. À partir de ce moment-là, pourquoi ne pas s'inspirer des Pays-Bas, de l'Allemagne, du Japon et de la Corée du Sud, qui se tournent presque 100 % vers les soins à domicile? Ça, c'est le modèle à adopter. Ça, c'est vraiment, si tu veux vraiment réformer ton modèle, tu te dois, pour les soins aux aînés, d'investir vers des soins à domicile. La façon de le faire, encore une fois, permet d'avoir un assureur privé, OK? Permet d'avoir un assureur privé. Lorsque tu le permets, ça, tu peux le... C'est-à-dire que toi, Joey, tu peux le prendre en ce moment, tu pourrais prendre, comme au Japon, comme en Corée du Sud, comme en Allemagne, comme aux Pays-Bas, tu pourrais prendre cette assurance-là à partir de ton âge, ton jeune âge, où tu es en super forme, là, tu cours des marathons, puis des affaires comme ça, mais tu allumes, tu dis, ouais, peut-être qu'à un moment donné, il faudrait que j'assure mes vieux jours. Tu vas la payer toute ta vie 8 $ par mois, ou 10, ou 12 $ par mois. Mais ça a démontré qu'à partir du moment où tu as un déclin cognitif, il y a des groupes privés, mais souvent à but non lucratif, qui vont être payés par ton assureur, qui vont te prendre en charge à partir du moment où est-ce que tu as 67, 68, 71, 72, pour prévenir ton déclin cognitif. Pourquoi l'assureur? Mais il y a un intérêt à prévenir ton déclin cognitif. Ça va coûter moins cher, tu comprends, si tu es en meilleure santé. Donc, et là, tu vas créer un réseau. Et souvent, ce n'est même pas du privé à but lucratif. Oui, l'assureur est à but lucratif naturellement. Mais souvent, le réseau autour, c'est un réseau, ça peut être des aidants naturels, ça peut être des organismes à but non lucratif. Souvent, c'est du privé à but non lucratif. Et les gens sous-estiment ça dans le modèle. Donc, d'investir, comme ce qui est écrit dans le budget, dans les soins à domicile, d'accord. Mais les centaines de millions de dollars qui sont donnés pour des maisons des aînés à 1 million la porte, je pense que le modèle ne peut on ne pourra pas y arriver. Et non, encore une fois, je répète ce que j'ai répété aux journalistes par rapport au plombage. Écoutez, si on est capable d'exploiter nos ressources naturelles, gaz, pétrole, uranium, etc., puis on devient dans 50 ans tellement riche, aucun problème. Là.
Sont-tu chiants, pareil? T'sais, j'ai écouté la conférence de presse, puis il veut des soins de santé, des soins dentaires gratuits. Voyons donc, c'est juste... C'est 1 plus 1 égale 2, si bon, on a-tu les moyens des avoirs? Si l'argent sort par les oreilles, ben oui, là, pourquoi pas? Mais sa capacité de payer, mais c'est contraire à votre idéologie. Non, ça n'a pas rapport, c'est même pas ça le point.
Non, c'est pas...
C'est tellement stupide, là. Après ça, on se dit que les médias font un travail extraordinaire puis ils ont un code d'éthique. Hein, les dons... En tout cas, vous savez ce que je veux dire. On est en début de semaine. Là. Je me pomperai pas plus qu'autre mesure. Là. Mais est-ce que je peux... Regarde, j'en avais pas parlé avant, Karim, mais je veux te faire écouter de quoi. J'ai mis dans mon bulletin de nouvelles de la semaine passée, puisque je suis tombé dessus en écoutant un segment dans des radios où c'est que le gouvernement met encore de la pub. C'est la pub radio que le gouvernement du Québec a mis par rapport à son nouveau budget. Est-ce que tu l'avais déjà entendu?
En tout cas, fais-moi l'écouter, là, de mémoire, non.
C'est spécial, de la manière qu'on nous twist ça, puis je veux vraiment entendre ta réaction, fait que ça va comme suit.
Son nouveau budget, le gouvernement priorise la santé et l'éducation. Il renforce son action pour livrer des services de qualité aux Québécois. Dans toutes les régions du Québec, des sommes importantes sont investies pour répondre aux enjeux des citoyens, protéger l'environnement et s'adapter au changement climatique et contribuer à l'essor de notre économie. Ensemble, on continue de se donner les moyens de nos ambitions. Pour en savoir plus sur le budget, rendez-vous au québec.ca/budget.
Un message du gouvernement du Québec.
Hey, on se donne les moyens de nos ambitions, Karim. On se met 11 milliards dans le trou, c'est du moins le fun.
Okay. Honnêtement, c'est parce que ça me décourage. Et c'est parce que ce qui me décourage dans tout ça, c'est que je sais que la majorité des gens qui vont l'écouter vont le croire. Et je sais qu'en ce moment, la CAQ se fait taper dessus. Et qu'est-ce que ça va être quoi le résultat aux prochaines élections? Soit la CAQ va rebondir de façon magistrale et retrouver un gouvernement, peut-être même majoritaire, ça peut switcher, ou le plus probable, le PQ va être au pouvoir. Et là, le PQ, c'est les mêmes choses. Allez, s'il vous plaît, puis je vous dirai, là, je sais qu'il y a de plus en plus d'auditeurs de Yann et Frank qui sont en adoration de Paul Saint-Pierre Plamondon. Je le sais qu'il est beau, OK? Mais c'est pas juste une question de beauté, là. À un moment donné, là, mais même si c'est le plus bel homme de l'histoire du Québec, puis même s'il est articulé, puis il parle plusieurs
langues... Je te confirme que non, Karim.
Mais c'est parce que toi, tu as plus de crédibilité pour le concerner.
Ouais, c'est ça. Je m'y connais un petit peu en beauté masculine. Je peux te le dire.
Mais c'est parce que, à un moment donné, puis je sais qu'il est brillant, puis c'est un politicien habile.
Ah non, c'est pas un câble.
Articulé, puis tout ça. Non, je le sais. Mais s'il vous plaît, allez lire l'ancienne plateforme du Parti québécois. T'sais, c'est-à-dire, c'est pas juste la question d'être charismatique, d'être beau, de bien parler. Allez lire la plateforme. Puis, je vous dirais qu'une plateforme, ça veut quand même dire beaucoup pour être en politique. Puis, c'est ça que je vais envoyer un peu comme message aux auditeurs, c'est-à-dire, une plateforme, il y a beaucoup de pression en arrière d'une plateforme. C'est-à-dire, c'est pas juste le chef, c'est pas juste le conseiller rapproché du chef, c'est pas juste... Tu as beaucoup de pression à l'intérieur d'un parti. Ce qui ressort d'une plateforme, ça va être assez difficile de dévier de ça. Oui, écoute là, c'est-à-dire, ça, comment je peux dire, lorsque tu as une plateforme électorale, c'est facile de ne pas livrer la marchandise quand tu es au pouvoir. Mais de faire à 180 degrés ce qui est dans ta plateforme, là, tu risques vraiment de t'annihiler ta base. Puis dans un parti politique, quand tu es dans un congrès, le chef peut se faire renverser, il y a des alliances qui se créent. Donc, lorsque vous lisez la plateforme, ça veut dire plus que uniquement ce que le chef dit. Allez lire les idées. C'est assez intéressant. Puis je comprends que beaucoup se font séduire en ce moment par le PQ. Puis écoutez, là, je veux dire, le PQ va être au pouvoir, puis ça changera pas grand-chose, là, moi, dans ma vie. Mais regardez un petit peu. Ça changera pas beaucoup. C'est-à-dire, le budget là, de 11 milliards déficitaires que vous avez en ce moment, c'est pas le PQ qui va vraiment changer les choses. Regardez, il y a des gens, puis là, je les entends, là. PCQ, pas de contenu, écoutez, invitez-moi. Ceux qui disent qu'on n'a pas de contenu, moi, je suis président de la commission politique, invitez-moi. Je vais aller sur n'importe quelle plateforme, je vais vous parler de nos idées en économie, en énergie, en santé, ben, je peux. En économie, Adrien Pouliot va aller vous les expliquer, il va aller débattre. Pas vrai qu'il n'y a pas de contenu. La plateforme est là. Pas juste la plateforme, le nouveau programme également. Donc, mais la grosse difficulté, c'est de bien vulgariser ça dans les médias et de trouver la façon, la clé pour sortir ces idées-là. Ce qu'on est en train de... Puis là, je veux dire, sur votre plateforme, c'est sur votre chaîne, c'est super. C'est Yann et Frank, puis Joey, vous nous donnez cette possibilité-là, tu me donnes cette possibilité-là, puis je t'en remercie beaucoup. Mais on n'a pas cette chance-là, de façon générale, dans les médias. Puis, c'est pas pour se victimiser du tout. Certains vont dire faut que vous gagnez votre place. Puis oui, c'est vrai, d'une certaine façon, faut que tu gagnes ta place, faut que tu gagnes ta crédibilité. Puis peut-être que les médias ont raison de nous ignorer parce qu'on n'a pas suffisamment de notoriété, parce qu'on n'a pas suffisamment de noms connus. Ça dépend de quelle façon on le voit. Mais je vous dis, là, ce budget-là, il est catastrophique au niveau de la santé parce qu'il n'y a aucune réforme significative. À part, puis là, je suis honnête intellectuellement, le mode de financement des hôpitaux, ça, je le donne au ministre Dubé puis au ministre Girard. Ça, c'est sur la bonne voie. Maintenant, est-ce que vraiment c'est suffisant? Je pense pas, honnêtement. Je pense que ça prend une... Parce que tu as quand même 4,4 milliards qui est structurel sur le plan du déficit. C'est ça qui est inquiétant. Parce que disons que tu avais 11 milliards, parce qu'il faut être honnête aussi, là, 11 milliards, il y a quand même quelques milliards qui sont donnés au Fonds des générations, donc c'est pas une dette totale.
Ouais, c'est plus un déficit de 8 points quelques que de 11, sachant qu'il n'a exact, plus que exact. C'est pas qu'on l'a pas, c'est qu'on l'a mis dans un fonds.
Exact. Juste par souci d'honnêteté intellectuelle, il faut le mentionner. Ça demeure quand même un très gros budget, un budget très déficitaire. Et le problème, c'est qu'on donne ça en salaire. Et est-ce que vous pensez vraiment que d'augmenter les salaires vont faire en sorte que les gens vont performer plus? Non.
Mais oui, Karim, voyons, les syndicats nous disent toujours ça.
Ça n'arrivera jamais. Le fait d'augmenter un salaire, même si personnellement, mettons que tu doubles mon salaire demain matin, je ne serai pas plus performant. Pour être plus performant, ça me prend d'autres incitatifs. Ce ne sont pas des incitatifs juste d'augmenter le salaire pour augmenter le salaire. Augmenter le salaire en bonus à la performance, c'est autre chose, par exemple. Là, tu peux augmenter la productivité, puis tu peux utiliser ton capital humain de façon plus intéressante.
Un demi-temps double, faire de l'air supplémentaire, c'est ça.
Mais juste augmenter ton salaire, bah, non, écoutez, parce que si tu augmentes ton salaire sans avoir à donner plus pour ton augmentation de salaire, et tu es sûr de l'avoir, tu n'es pas sur une chaise éjectable, ben, tu n'auras pas de gain de productivité. Vraiment pas. Et il y a un dernier point que je voulais mentionner, c'est 900 millions de dollars pour la numérisation du système de santé. OK, maintenant, 900 millions.
Éric Kerr.
Oui. Yes, sir. Là, moi, j'ai discuté avec une sous-ministre en Alberta, sous-ministre à la Santé en Alberta, le système le plus performant au Canada, qui a été quand même bien étudié, c'est le Alberta Netcare Portal. Okay? Ça, c'est un système qui interconnecte à peu près toute la province de l'Alberta sur le plan électronique. Il leur a coûté 800 millions de dollars il y a une dizaine d'années à peu près. Bon. Nous, on dit qu'on veut investir 900 millions pour cette numérisation. Moi, la question que je pose, puis si j'étais un député de l'Assemblée nationale, je poserais cette question-là à M. Dubé, c'est quoi le logiciel? Le 900 millions que vous mettez, moi, je suis d'accord, là, de numériser le réseau. Et s'il vous plaît, là, arrivez-moi pas avec le fait que c'est le Forum économique mondial qui va rentrer dans le système de santé du Québec, puis que Bill Gates va le contrôler. J'ai plus beaucoup de patience pour ça. Là,
non, parce qu'on est encore avec des fax, la gang. Là.
Ben
gars,
oui.
Ils ont dû arrêter des services d'hôpitaux parce qu'il n'y avait plus d'angle pour les machines faire les cartes d'hôpital il y a quelques semaines. Là. C'est une vraie
Exactement.
Nouvelle qui est arrivée.
C'est
on est rendu. On est en mode 1992 depuis quasiment 30 ans dans le système.
Donc oui, ça prend des garde-fous, OK? Oui, il faut que personne ne doit avoir accès à votre identité, sauf votre médecin si vous lui donnez l'autorisation. 100% d'accord avec ça. Vraiment. Et si votre identité est violée, il doit y avoir des peines pénales sévères. 100% d'accord.
Absolument.
OK? Maintenant, ceci étant dit, il y a 10 ans, ça a coûté 800 millions de dollars. À l'Alberta pour avoir un système très performant sur le plan du numérique en santé. Ce qu'on prévoit dans le budget, c'est 900 millions. Okay. Moi, ce que je veux savoir du ministre, c'est quel logiciel? C'est quoi le logiciel? Est-ce qu'encore une fois, on crée quelque chose par nous-mêmes qui ne donnera pas grand-chose puis qui va être tout croche? Ou est-ce qu'on achète le logiciel de l'Alberta? Ou est-ce qu'on achète un logiciel américain? Est-ce qu'on achète un logiciel danois, suédois, allemand, japonais? C'est quoi ce 900 millions? C'est-tu juste dans les airs comme ça? C'est-tu comme ArriveCan? Que finalement, c'est quelque chose qui aurait pu nous coûter 60 000, puis il va nous coûter 900 millions. J'exagère un peu dans ce que je dis, là, puis je suis démagogique un peu, je l'avoue. Mais c'est quoi ce 900 millions-là? C'est quoi le logiciel? Parce que c'est beau avoir des chiffres, là. Puis je remonte le livre, le budget. Okay? C'est beau avoir des chiffres, mais c'est quoi qu'il y a en arrière de ces chiffres-là? Et moi, c'est cette question-là que je poserais.
Bon. Ouais, puis regardez qui est prêt à créer ces dites applications-là, parce qu'on le voit que le fédéral, faut faire attention avec qui on fait affaire pour pas se faire, en bon guillemets, excusez-moi le terme, fourrer. Fait que c'est des compagnies honnêtes, il en existe, mais des gens qui veulent faire une passe de cash aussi. Fait que faut être très prudent à ce niveau-là. Là.
Et je voulais revenir juste là, excuse-moi, Joey, je sais qu'on dépasse le temps, mais je voulais juste conclure parce que j'ai vu beaucoup de choses dans les médias qui circulaient à l'effet que dans le réseau privé à l'heure actuelle au Québec, ça coûte plus cher faire une intervention que dans le réseau public. Mais oui, c'est sûr et certain. C'est que vous ne libéralisez pas le réseau, vous n'avez pas de concurrence. C'est-à-dire, le ministre, à l'heure actuelle, décide quelles cliniques peuvent faire affaire avec l'État ou non. C'est pas libéralisé. À partir de ce moment-là, vos courbes d'offres et de demandes vont faire en sorte que vous avez un tout petit réseau privé, tout petit, qui va chercher, qui va désengorger un gros réseau public avec plein de patients dont tu as énormément de demandes puis tu as peu d'offres. Tu comprends? C'est sûr que les prix vont hijacker. Mais libéraliser le réseau et regarder l'expérience internationale, particulièrement celle suédoise, 10% moins cher pour moins de liste d'attente.
Surtout aussi, à la limite, c'est quasiment artificiel, parce que dans le principe que l'État garoche tellement d'argent dans ce modus de système-là qu'à un moment donné, ça finit par venir moins cher, mais peut-être que ça ne l'est pas vraiment à face value, là. Tu sais, je comprends qu'il y a un ratio de patients par rapport, de clients, mais vous savez ce que je veux dire, hein? Pour ce qui est des hôpitaux, mais bien évidemment, comme tu le dis, si le privé aurait la possibilité de faire de l'expansion, bien évidemment, ça reviendrait moins cher. Là. C'est automatique. Je serais prêt à gager tout ce que je possède que le privé réussirait à rendre ça moins cher que le public par définition.
Exactement. Et pour répondre à l'argument de la qualité de l'acte, c'est vrai que tu ne peux pas laisser le privé faire n'importe quoi. il faut que tu l'encadres comme il faut.
Absolument.
Il faut que tu aies des pénalités s'il y a des mauvaises qualités de l'acte. Ça, c'est vrai. Mm. Les êtres humains fonctionnent avec des incitatifs et des contraintes. Moi, j'aime plus l'aspect de l'incitatif. Comme libéral classique, j'ai une tendance à préférer la portion incitatif que la portion pénalité ou contrainte, mais il ne faut pas se mettre la tête dans le sable. La contrainte, les pénalités, à un moment donné, elles sont nécessaires.
Yes. Hey, merci beaucoup, Karim. C'était bon, grand retour, puis gros good job, sérieusement. Se mettre huis clos pour parler de chiffres de même moi, je serais pas été capable, je pense. En tout cas, c'est essentiel, puis ça fait partie de la job de pour ce qui est des partis de s'occuper de ça, puis il faut le pointer du doigt, puis il faut le critiquer, parce qu'on l'a vu clairement la semaine passée, puis on a parlé dans Yann et Frank. Le PCQ était pas mal seul dans son discours. Soit on nous disait qu'on s'endettait pas assez, puis qu'il y avait pas assez d'argent pour les artistes puis la culture. Soit on nous disait que c'était toute la faute du fédéral parce qu'ils nous donnent pas tout ce qu'ils nous ont dû. Ou soit que finalement, on est prêt à optimiser puis à couper dans l'État, mais on garde tous les fonctionnaires. C'est ça. C'est les seuls qui osaient vraiment couper dans le gras puis sortir un peu la chaîne ça à petite et moyenne échelle, c'était le PCQ. Fait que, on vit dans un monde assez spécial quand même. Je vais dire comme l'autre, je vais prendre une citation de Moret, on va aller au paradis, mais on ne veut pas mourir. Malheureusement, c'est un peu comme ça. Écoute, thank you, puis on se revoit la semaine prochaine, Karim.
Ça m'a fait plaisir. Bonne semaine à tous.